Et cette semaine, à ses Santoro et Daniel Abert parlent des défis intérieurs et surtout extérieurs pour Israël, notamment cette double pression américaine actuelle sur l'État hébreu. On écoute Daniel Abert.
Bonjour Daniel Abert.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Alors Daniel, ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations. Vous êtes de retour en France, mais pendant un mois, Daniel, vous étiez en Israël et vous nous avez partagé tout au long de votre séjour vos analyses telles que vous les perceviez sur place. Et ce serait peut-être une bonne idée, Daniel, si vous le voulez bien, de nous faire une synthèse de ce que vous avez appris justement sur place afin que nous ayons bien en tête la situation d'Israël dans le reste du monde.
Oui, c'est toujours intéressant à faire, d'autant qu'Israël est ce qu'on appelle un faux petit pays. Il est petit par la taille, mais il est important par son influence et par le fait qu'il est, au fond, en permanence scruté par le monde entier. Donc, quand on parle d'Israël et des défis internationaux, on parle en fait, au fond, de toute la géopolitique mondiale vue à travers les yeux importants de cet acteur géopolitique qu'est Israël. On peut le partager entre défis intérieurs et défis extérieurs. Commençons par les défis intérieurs. C'est évidemment cette réforme de la Cour suprême qui attire beaucoup l'attention. On sait qu'elle est en suspens. Il y a des négociations qui ont lieu tous les jours dans les bureaux du président de la République, Isaac Herzog. Il y a les deux partis, le gouvernement et l'opposition. Et il y a beaucoup de juristes qui sont appelés pour donner leur avis. Mais au fond, on sait bien que la solution, elle sera politique. Donc tout ça est au fond assez banal et il faut replacer donc ce qui se passe en Israël dans ce cadre plus large, sinon on ne comprend pas. Et donc parler par exemple de crise démocratique en Israël n'a aucun sens, ou alors il faut en parler aussi pour les États-Unis, pour la France et les autres pays d'Europe. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, sauf que il y a un cas particulier qu'on va reprendre certainement dans cette conversation d'aujourd'hui, c'est la pression américaine qui s'exerce aussi sur cette question intérieure. On a vu Biden dire au Premier ministre, il faut faire attention à cette réforme. Donc c'est quand même assez étonnant de voir cette ingérence massive d'un pays, même le plus ami d'Israël, dans un problème purement intérieur. Je crois que si c'était sur l'Europe ou sur le Japon, les opinions publiques de ces pays-là protesteraient. Donc avec les Américains, bon, Israël pratique un grand sourire et ils savent que c'est au fond perçu pour notre bien, au fond. Donc voilà.
Alors Daniel, vous nous parlez justement des défis intérieurs, des questions intérieures, mais d'autre part, quels sont justement les défis extérieurs cette fois?
Il se ramène à un seul pays, l'Iran. Au fond, quand on regarde bien, Israël n'a pas d'autre ennemi juré aujourd'hui que l'Iran, qui ne cesse de menacer depuis que la République islamique existe, depuis 1979. L'Iran d'abord parce que l'Iran n'est pas seul. L'Iran a tissé une toile d'affiliés à sa botte, financés par l'Iran et qui sont tous hostiles à Israël et cela se manifeste de différentes façons. Dans cette toile d'alliés ou d'affiliés à l'Iran, il y a des États, l'Irak, la Syrie, le Liban. Il faut rappeler aussi qu'il y a le Yémen qui est au sud, qui fait partie des menaces. Il y a beaucoup d'autres ONG dans le monde. C'est triste quand même de se dire que des ONG aussi célèbres que Amnesty s'en prend à Israël comme un véritable ennemi. Et puis il y a surtout toutes ces factions palestiniennes qui sont toutes à la fois financées et encouragées par l'Iran pour procéder à des attaques. Et au fond, l'Iran leur dit plus vous ferez du mal à Israël, plus je vous donnerai d'argent. Donc une espèce de concurrence du mal. C'est assez épouvantable à se l'imaginer. Et donc, c'est à qui fera le plus de mal à Israël et à qui sera capable de supporter le plus de punitions, parce qu'Israël punit tous ceux qui les attaquent, les punit de façon terrible. Et donc, ça n'a pas l'air de les empêcher de vouloir apparaître comme étant la faction qui va dominer, parce que, je le dis à chaque fois, l'après Abbas, il est là. Qui va, dans l'avenir, représenter le peuple palestinien? Aujourd'hui, on peut dire qu'il est représenté par une foule de factions terroristes, au fond, et que sous cette égide de l'Iran, je crois que la cause palestinienne est en train a déjà perdu son âme et n'a plus, elle n'a plus grand monde pour la défendre, sauf des partis politiques ou des organisations internationales qui sont au fond à la fois antisionistes et antisémites. Mais il y a le deuxième volet pour l'Iran, c'est évidemment la bombe. Tout le monde dit que l'Iran est déjà presque un pays du seuil, mais au moment où on dit ça, on entend Biden dire encore récemment qu'il continue de négocier à Vienne, au grand dam évidemment d'Israël, qui se retrouve un peu seul à dire que si vous dites tous qu'il ne faut pas que l'Iran se dote de la bombe, il faut faire quelque chose. Or, vous êtes tous en train de ne pas vouloir comprendre que c'est le moment d'intervenir. Et donc on voit bien aussi qu'Israël aura beaucoup de mal à intervenir seul. Et donc la position américaine, elle est faite surtout pour retarder le moment fatidique où il faudra bien faire quelque chose. Et on voit bien que cette année, l'année prochaine, qui sont des années d'élections aux États-Unis, on voit bien aussi que la guerre en Ukraine est dans tous les esprits. Et qui a envie aujourd'hui d'ajouter une guerre à une guerre? Donc, si vous voulez, c'est vraiment pour Israël la principale préoccupation. Il faudrait pouvoir intervenir et les circonstances vraiment ne s'y prêtent pas. Donc on voit les Américains essayer de faire pression sur Israël pour qu'il se calme, exercer même quelquefois des chantages. Tout récemment, Biden a proposé au Premier ministre israélien de dire, écoutez, nous, on va continuer à négocier et nous, on va continuer à vous laisser négocier avec l'Arabie saoudite et on va vous aider. Une espèce de chantage, hein, de Iran contre Arabie saoudite qui n'a pas beaucoup de sens.
Alors, au fond, Daniel, dans ce que vous dites, on dirait que les Américains sont pour Israël la clé de toute la politique israélienne et comme c'est le cas, en fait, depuis maintenant quelques années, c'est le cas.
Oui, ça a toujours été le cas. Israël peut pas rester seul. Elle avait l'ami français, elle a l'ami américain. Mais ce besoin d'Amérique s'est encore renforcé justement à cause de l'Iran et qui est quand même un gros morceau. C'est un grand pays qui n'est pas tout à fait seul dans le monde. Donc, il y a plus besoin d'Amérique et l'Amérique est très embarrassée dans sa politique extérieure puisqu'elle avait, depuis Obama, pivoté en faveur du défi chinois qui devait concentrer toutes les attentions américaines. Elles sont distraites, cette focalisation sur la Chine, par ce qui se passe en Ukraine. Alors si en plus il faut intervenir au Moyen-Orient, c'est contraire à toute la philosophie politique américaine depuis une quinzaine d'années. Donc l'Amérique reste le problème, évidemment, la relation avec l'Amérique reste essentielle pour Israël, et il se trouve que l'Amérique profite de cette situation pour faire, au fond, deux pressions principales. Et, je voudrais les rappeler, la première pression, là, on a parlé tout à l'heure, c'est sur l'Iran. Cette pression est accompagnée d'une compensation qui serait l'Arabie saoudite, et Biden prétend pouvoir peser sur une Arabie saoudite que Biden n'a pas cessé de vilipender en s'en prenant personnellement à Mohamed Ben Salman. Puis la deuxième grande pression qui est permanente, c'est sur la Chine. Les Américains disent arrêtez, la Chine c'est notre rival systémique, pour pas dire ennemi, et donc on compte sur vous pour ne pas aller trop loin. Or, d'une part, Israël ne peut pas se passer de la Chine, notamment à long terme. Et puis, Israël voit aussi que tous les autres amis des États-Unis, l'Europe, le Japon et les Américains eux-mêmes, continuent de travailler avec la Chine, font du commerce, il y a des investissements, il y a encore des usines. Et donc, pour Israël, ralentir ses relations avec la Chine, ça serait un peu être perdant et être un peu naïf d'être le dernier des imbéciles, alors que tout le monde travaillerait avec la Chine. Donc voilà cette double pression américaine qui est permanente et au fond la conclusion de notre entretien aujourd'hui pourrait être qu'est-ce que peut faire Israël face à cette double pression? Je crois que deux choses peuvent être faites par Israël. La première, c'est en permanence montrer qu'Israël est capable de se défendre tout seul. Et la deuxième, c'est certainement développer une meilleure négociation avec les Américains, ne pas accepter l'idée qu'il y a un grand pays qui aide un petit, parce que c'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Israël doit avoir une capacité de démontrer aux Américains qu'ils ont beaucoup besoin d'Israël et que sans Israël, les Américains auront beaucoup de mal à conserver une place honorable au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Daniel Haber pour vos éclairages. Comme chaque fois, on vous remercie évidemment. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.